14e épisode. Le buste aux yeux d'émeraude. Chapitre 1er. Résurrection. Depuis le matin, les rues de San Francisco présentaient une animation inaccoutumée. D'heure en heure, des centaines de trains débarquaient des milliers de voyageurs venus de tous les points de l'Amérique. En dépit de l'effort de 4 régiments de policemen à cheval qui se livraient de temps à autre à de véritables charges, il était à peu près impossible de circuler à travers cette multitude où se coudoyaient tous les peuples du monde. Américains, Chinois, Nègres, Océaniens, et jusqu'à des Esquimaux encore vêtus malgré la chaleur de leurs blouses de peau de phoque et de leurs épaisses fourrures. Des fenêtres des hautes maisons, presque toutes reconstruites en acier après le dernier tremblement de terre, des groupes nombreux se pressaient. Et, dans certains endroits, des spéculateurs avaient dressé des estrades dont les places se louaient jusqu'à 20, 50 et 100 dollars. C'était sur le parcours des quais à la gare du Central Pacific Railroad que l'animation était la plus grande. Là, les policemen devaient livrer de véritables combats. La marée humaine, sans cesse grossissante, se ruait par toutes les rues adjacentes et cherchait à envahir la large avenue par où devait passer le cortège dont l'attente excitait à un si haut degré la curiosité des habitants de Frisco. Au milieu de cette cohue, 3 voyageurs, installés dans une automobile dont la plateforme était chargée de nombreux bagages, n'arrivaient pas, en dépit de tous les efforts de leur chauffeur, à se frayer un passage. Dans une autre ville que San Francisco, qui sert de rendez-vous à toutes les races de l'univers, le costume des voyageurs et leur allure n'eussent pas manqué d'attirer la curiosité des badauds. Mais ici, personne ne faisait la moindre attention à eux. De ces 3 personnes, la première était un cosaque, facilement reconnaissable à ses yeux bridés, à ses pommettes saillantes et à son nez aplati. Il était vêtu d'un vieux costume de matelot trop étroit pour sa grande taille et coiffé d'une toque de fourrure. La seconde était un vieillard à la barbe et aux cheveux blancs, à la physionomie pleine d'intelligence et de bonté. Il portait un élégant complet de coutil blanc et un chapeau en fibre de Panama. Enfin, la troisième était une petite océanienne, de 15 à 16 ans tout au plus, tête nue, les cheveux relevés à la japonaise et retenus par de longues épingles. Elle se drapait dans un luxueux kimono de soie rouge brodée d'or. « Je crois, dit tout à coup le vieillard, qui semblait observer cette foule avec un sourire ironique, que nous ne pourrons jamais arriver au Palace Hotel. Qu'en penses-tu, mon brave Rapopoff ?»« Je pense, petit père, » balbutia le cosaque à qui cette multitude houleuse causait une sensation proche du mal de mer, ou tout au moins du vertige, que nous ferions mieux de retourner en arrière. « Impossible, » répliqua le vieillard. « Il est aussi difficile de revenir sur ses pas que d'avancer. » À ce moment, une dizaine de voix hurlantes dominèrent le tumulte de la foule. C'était une bande de camelots auxquels on venait d'ouvrir la porte d'une imprimerie et qui se ruaient dans la bagarre en criant « Demandez le numéro du San Francisco Herald !» avec le portrait de l'illustre Bondona et le détail de ses obsèques. » On se battait pour leur arracher les feuilles que certains badauds leur payaient jusqu'à 1 $. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'ils avaient épuisé leurs provisions de journaux. On dut leur jeter de nouveaux numéros des fenêtres de l'imprimerie. La petite océanienne regardait ce spectacle avec une surprise qui n'était pas exempte d'une certaine terreur, voyant et écoutant tout avec une attention suraiguë. Brusquement, elle tressaillit, et se tournant vers le vieillard. « Mais il me semble, » s'écria-t-elle, « que c'est votre nom qu'il prononce. » M. Bondona ne répondit pas à cette question. Le sourire légèrement ironique, qui avait un instant déridé ses traits, avait disparu. Il était en proie à une fiévreuse impatience. « Il faut pourtant que nous avancions, » dit-il au chauffeur. « Impossible, » fit l'autre avec un geste résigné. « Il y a 100 $ pour vous si nous atteignons le Palace Hotel ou seulement un café où je puisse téléphoner. » L'homme haussa les épaules. « Quand vous m'en promettriez 1 000, » répliqua-t-il, « ce serait la même chose. » Il ne put achever sa phrase. Un orchestre de 500 musiciens, qui se trouvait à peu de distance, venait d'attaquer la marche funèbre de Chopin. Le rugissement des cuivres et les roulements lugubres des tambours couvraient même la voix de la multitude. Mais à ce moment, il se produisit dans la cohue une poussée formidable. L'automobile, enlevée par 100 bras vigoureux, parcourut une 30aine de mètres par-dessus les têtes des spectateurs. Les 3 voyageurs durent se cramponner à leur siège. L'auto, projeté avec une puissance presque irrésistible, ne fut arrêté dans son élan que par le régiment de policemen qui barrait l'extrémité de la rue. Mais grâce à cette poussée brutale, elle se trouvait maintenant aux bordures de l'avenue même où le cortège allait commencer à se dérouler. M. Bondonat et ses compagnons montèrent debout sur le siège pour mieux voir le spectacle qui s'offrait à eux. À peu de distance de là, ils apercevaient la gare du Central Pacific Railroad, toute tendue de velours noir ornée de larmes d'argent et transformée en un gigantesque catafalque, éclairé par les flammes vertes de lampadaires de bronze. Toute la place qui s'étendait devant la gare n'était qu'un immense bouquet de fleurs. Il en était venu des trains entiers, hommage de tous les savants de l'univers à la mémoire de l'illustre Prosper Bondonat. L'avenue, de la gare au quai, était également tendue de velours noir dans toute sa longueur. Tous les globes électriques étaient allumés et voilés de larges crêpes flottants, d'un aspect fantastique. Enfin, partout, à toutes les fenêtres, aux branches de tous les arbres, claquaient au vent des milliers de drapeaux américains et français, également cravatés de noir. Au centre de la place, une estrade protégée par une tente de riches draperies était occupée par de graves personnages en habit noir, des diplomates et des généraux aux brillants uniformes. Tout à coup, des vivas saluèrent l'apparition du cortège, que précédait une imposante escorte de policemen à cheval, accompagnée d'un corps de la garde civique, immédiatement suivi par les 500 musiciens qui continuaient à jouer en avançant lentement la marche funèbre de Chopin. M. Bondonat éprouvait un étrange saisissement. Ses mains amaigries tremblaient d'émotion, et, quand même la musique et le tumulte de la foule n'eussent pas couvert le bruit de sa voix, il n'eût pu parler tant il avait la gorge serrée. Il se frottait les yeux pour s'assurer qu'il était bien éveillé, qu'il n'était pas en train de se débattre contre un cauchemar. Et il ne put s'empêcher de se comparer à Charles Quint qui, suivant une tradition, voulut assister lui-même, couché dans un cercueil, à ses propres obsèques, au monastère de Saint-Just. Ce cortège, digne d'un roi ou d'un prince, continua à défiler devant ses yeux comme une étincelante vision. Après, les musiciens venaient par douzaines des voitures chargées de fleurs. Puis le char funèbre lui-même, orné aux quatre angles de torchères, où brûlaient des flammes vertes. Il était surmonté d'un dôme de drap d'argent soutenu par quatre colonnes d'ébène. Le chauffeur, qui le conduisait avec une lenteur solennelle, était revêtu d'un habit à la française, pompeusement galonné. Derrière venaient plusieurs voitures de deuil au store baissé. À la pensée que sa fille se trouvait dans l'une d'elles, M. Bondonat sentit le vertige de gagner. Il voulut s'élancer, crier. Mais son geste et son cri se perdirent dans la puissante rumeur de la multitude, dans le tonnerre des acclamations et des musiques. Le vieillard se laissa retomber sur son siège, pâle, défait, à demi-mort, regardant d'un œil terne et comme brouillé par les larmes la majestueuse cérémonie qui continuait à se dérouler selon les phases prévues. Protégé par les policemen dont la tâche devenait de plus en plus difficile, les représentants des diverses sociétés savantes, des États américains et des corps constitués étaient venus occuper autour de la place les estrades qui leur avaient été réservées. Un petit groupe au milieu duquel se remarquaient trois jeunes filles couvertes de longs voiles noirs alla prendre place sur une petite estrade plus luxueusement décorée que les autres. Et l'on se répétait dans la foule que ceux-là qu'on honorait d'une distinction aussi flatteuse n'étaient autres que les parents et amis du défunt. M. Bondonat se sentait défaillir. « Ma fille, ma chère Frédéric » bégaya-t-il. « Comment lui épargner cette douleur ?» Cependant, le char funèbre s'était arrêté à côté de l'estrade où se trouvaient les savants et les diplomates, et annonça d'une voix claire. « Monsieur le docteur Cornelius Cramm va prendre la parole au nom des membres de la National Academy de New York. » M. Bondonat, éperdu, vit alors se lever un personnage à la physionomie singulièrement caractéristique. Son visage, entièrement rasé, offrait des traits réguliers, et son front très haut, son crâne énorme, annonçait une puissante intelligence. Mais ses lèvres minces indiquaient une méchanceté froide, et derrière ses larges lunettes d'or, ses yeux sans cils étaient à la fois fixes et obliques, comme ceux de certains oiseaux de proie. « Cornelius ! Le fameux docteur Cornelius ! » se répétait la foule. « Le sculpteur de chair humaine !» Le silence attentif de la multitude était devenu plus profond. Ce fut avec une aisance parfaite que le docteur Cornelius Cramm commença son discours. « Messieurs, le savant auquel nous venons rendre ici un juste et public hommage fut une des plus nobles intelligences dont puisse s'honorer l'humanité. Grâce à lui, le savoir humain a accompli d'immenses progrès, Et si la mort n'était pas venue le frapper dans des circonstances assez mystérieuses, il aurait sans nul doute encore enrichi notre patrimoine intellectuel de découvertes comparables à celles qui ont tant contribué à sa gloire. Monsieur Prosper Bondona est mort assassiné par les sinistres bandits de la Main Rouge, dans une île perdue de l'océan Pacifique. » Le docteur Cornelius en proie à un trouble soudain s'arrêta net et ne put achever sa phrase. Ses yeux, qui erraient distraitement sur l'assistance, venaient de rencontrer ceux de Monsieur Bondona lui-même. Les deux regards s'étaient croisés, et Cornelius, malgré toute son audace, était tout à coup devenu d'une pâleur livide. Il ne se rappelait plus un seul mot de ce qu'il avait à dire. « Messieurs, balbutia-t-il, excusez une émotion bien légitime. » De longs murmures commençaient à s'élever dans la foule. Les uns s'extasiaient sur la sensibilité de ce bon docteur Cornelius. Les autres trouvaient son attitude tout à fait étrange et incompréhensible. La foule murmurait, mais sourdement. On devinait qu'il y avait dans les esprits comme une atmosphère de drame. C'était un de ces moments où l'on sent, sans savoir pourquoi, qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Cet événement extraordinaire, on l'attendait. Il se produisit. Dans la foule, à quelques mètres de l'estrade, un chien se mit à aboyer furieusement, un grand chien noir de la race des Barbets. Puis il rompit sa chaîne, que tenait un jeune homme pâle et chétif, un peu bossu, et s'élançant à travers les jonchées de fleurs, il atteignit en trois bonds l'automobile où se tenait M. Bondona. Il lui léchait les mains, il avait sauté sur ses genoux, et le vieillard, éperdu, ému jusqu'aux larmes, brisé par ses émotions successives, répétait d'une voix faible et cependant satisfaite. « Pistolet ! Mais c'est mon bon chien Pistolet !» Des groupes nombreux commentaient l'incident et se demandaient quel était l'étrange vieillard, quand deux policemen, armés de leurs casse-têtes de baleine à boules de plomb, s'approchèrent pour s'emparer de l'animal. « Ce n'est pas ici la place d'un chien !» dit brutalement l'un d'eux. Et il leva son casse-tête pour fracasser la tête du Barbet. « Je vous en prie, monsieur !» balbutia M. Bondona. « Ne faites pas de mal à ce chien qui m'appartient !» Le vieillard n'aurait peut-être pas eu le dessus dans la querelle si le petit bossu, qui tenait encore en main le bout de la chaîne brisée, n'était intervenu tout à coup. « Monsieur, commença-t-il, ce chien m'appartient !» Mais quand il aperçut le visage de M. Bondona qui tenait Pistolet sur ses genoux et le protégeait de son mieux, il poussa un cri de surprise et de joie. Et, s'élançant impétueusement dans l'auto, « Monsieur Bondona, c'est lui, vivant !» Il avait pris les mains de son vieux maître et il les couvrait de ses baisers et de ses larmes. Les deux policemen étaient demeurés stupéfaits, ne sachant que signifiait cette scène. Mais les paroles du petit bossu avaient été entendues de ses plus proches voisins, qui, presque tous, tenaient en main le numéro du San Francisco Herald où se trouvait le portrait du savant. Il leur suffit d'un coup d'œil pour découvrir la ressemblance du portrait et de l'original. Et bientôt, une rumeur courut dans la multitude, s'enfla et grandit comme le roulement lointain de la foudre. Bientôt, le même cri s'échappa de 100 000 poitrines. « Vivant ! Monsieur Bondona est vivant !»« Oui !» s'écriait le bossu. « Il est vivant ! Le voici ! Venez vite, mon cher maître, vous jetez dans les bras de vos enfants et de vos amis !»« Vive Bondona !» cria une voix. Ce mot fut le signal d'une acclamation générale. On voulait porter le vieux savant en triomphe. Une escouade de policemen était heureusement accourue au triple galop, et c'est grâce à leur protection que Monsieur Bondona et Oscar, que suivaient le Cosaque et la petite Océanienne apeurés et tremblants, purent arriver jusqu'au pied de l'estrade principale. En apercevant le vieillard, une jeune fille s'était levée, pâle comme une morte, sous ses longs vêtements de deuil. « Frédéric, mon enfant !» balbutia le vieillard. « Mon père !» s'écria la jeune fille en étendant les bras. Mais la secousse avait été trop brutale. Frédéric s'affaissa inanimée, morte peut-être, dans les bras de ceux qui l'entouraient. « Je l'ai tué !» s'écriait le vieillard avec désespoir. Et, en proie à un véritable égarement, il voulait se précipiter sur le corps de la jeune fille. À ce moment, deux policemen d'une taille athlétique l'empoignèrent avec rudesse et l'entraînèrent. « Comme voulez-vous » cria le malheureux savant. « Laissez-moi, je vous en prie !»« Suivez-nous !» lui répondit l'homme brutalement. « Au nom de la loi, je vous arrête !»« Qu'ai-je fait ?»« Vous avez une fière audace de le demander. Il faut que vous soyez vraiment effronté pour prendre le nom du grand savant et vous faire passer pour lui au moment même où toute l'Amérique s'est dérangée pour assister à ses obsèques. » « Mais je vous jure que je suis bien Prosper Bondona !» répondit le vieillard perdant tout sang-froid. « C'est un fou !» dit le second policeman qui jusqu'alors n'avait pas ouvert la bouche. Et de fait, il lui ressemble un peu. « Je vous jure que j'ai dit la vérité, » répéta obstinément le vieillard. « Allons, pas d'observation, » reprit le premier policeman. « Vous vous expliquerez avec le chef du poste. » Tout en parlant, les deux agents qu'entouraient une vingtaine de leurs collègues avaient entraîné M. Bondonnat jusqu'au commissariat spécial de la gare. On le laissa seul dans une sorte de cellule qui n'était meublée que d'un lit de camp et d'un escabeau. Le vieillard se demandait avec tristesse, en se voyant de nouveau captif, si la série de ses malheurs allait recommencer. Au dehors, il entendait des cris furieux, de longues acclamations, tout le bruit d'une tempête populaire, d'une véritable émeute. Cependant, au milieu du désarroi qui s'était produit lorsque Frédéric était tombé, le bossu, Oscar Tournesol, s'était aperçu qu'on arrêtait son maître, et aussitôt il en avait prévenu l'ingénieur Pagano, le naturaliste Ravenel, Mademoiselle André de Maubreuil et Miss Isidora, les deux meilleurs amis de Frédéric. « Mademoiselle, dit-il, occupez-vous, je vous prie, de soigner votre ami. Monsieur Bondonnat vient d'être arrêté. Il faut aller le plus vite possible à son secours. Je crains qu'il n'y ait là-dessous encore quelques coups de la main rouge. » Et Oscar, après leur avoir dit quelques mots à l'oreille, emmena avec lui l'ingénieur et le naturaliste. Miss Isidora et André de Maubreuil, qui avaient été presque aussi émus que Frédéric elle-même à l'apparition du spectre de Monsieur Bondonnat, se raidirent contre leur émotion et, en attendant que cet étrange mystère fût dissipé, s'empressèrent auprès de leur ami. Elles lui baignèrent les tempes d'eau fraîche, lui firent respirer des lavender shawls, mais tous ses soins furent inutiles. Frédéric demeurait inerte et glacé.
« Mon Dieu, elle est morte !» s'écria André. « La joie et la surprise l'ont tuée !»
Les deux jeunes filles s'affolaient, perdant la tête au milieu d'une foule de gens qui leur proposaient inutilement leurs bons offices. Fred Jorgel survint heureusement. Il était parvenu à grand-peine à fendre la cohue pour arriver jusqu'à l'estrade. Miss Isidora lui expliqua la situation en quelques mots. Son premier soin fut de faire appel aux policemen dont il était parfaitement connu, et qui, à l'aide de leur casse-tête, firent place nette autour de l'estrade. Puis deux d'entre eux transportèrent Frédéric, qui ne donnait plus aucun signe de vie, jusqu'au poste de secours dont la gare du Central Pacific Railroad était pourvue. Cornelius se faufila derrière en compagnie de Fred Jorgel, auquel il offrait obligeamment ses services, et celui-ci n'eut garde de refuser les soins de l'illustre praticien. Avant de suivre le milliardaire, Cornelius avait eu le temps de dire quelques mots à l'oreille d'un correct gentleman qui avait suivi toute cette scène avec une anxiété visible et qui n'était autre que Fritz Kram, le marchand de tableaux, le frère du docteur. Cependant, dans toute la ville, le tumulte était à son comble. La foule était exaspérée par la curiosité et aussi par l'attente et la déception. « Voyons !» criaient les uns. « Bondonnat est-il mort ou vivant? Il faudrait le savoir !»« On se fiche de nous !» « Ce fameux Français se porte aussi bien que vous et moi. Je l'ai vu. »« Je vous dis que non, c'est un escroc qui lui ressemble. »« La preuve que Bondonnat est bien vivant, c'est que la musique ne joue plus, que les discours sont arrêtés, et que la fille de Bondonnat est morte de saisissement en apercevant son père. » Ce fait capital que musique et discours avaient cessé avait fait une grande impression sur la foule. Les Américains détestent avant tout qu'on se moque d'eux, et dans cette occasion, ils se croyaient à peu près sûrs d'avoir été le jouet d'une mystification. Ils commencèrent à manifester leur mauvaise humeur en cassant à coups de pierre les globes électriques et en culbutant les estrades d'où les notabilités étaient descendues au milieu du désarroi général. Les Chinois, très nombreux dans la cohue, avaient été dès le début frappés de la beauté du velours noir frangé d'argent. Ils commencèrent à en arracher de larges morceaux qu'ils emportaient sournoisement. Ils furent d'ailleurs bientôt secondés dans ce travail par des bandits de toutes les nations qui abondent à San Francisco. Comme par magie, l'avenue qu'avait suivie le cortège funèbre se trouva dépouillée de tous ses ornements. La foule, pour qui ce pillage n'avait été pour ainsi dire qu'un avant-goût, était maintenant déchaînée. Elle houlait comme la mer battue par l'ouragan. Les policemen ne savaient plus où donner de la tête. C'était une véritable émeute qui grondait. Quelques matelots commençaient déjà à briser les vitres des boutiques, et les commerçants fermaient leurs devantures en toute hâte. Au milieu de ces scènes de désordre, les chars qui portaient les couronnes ne furent pas plus respectés que le reste. La multitude les culbuta et s'empara d'une partie des fleurs, foulant les autres aux pieds. Une quarantaine de miliciens à cheval défendirent courageusement le char funèbre sur lequel se trouvaient les restes, authentiques ou non, de M. Bondonnat. Ils s'étaient retranchés à l'entrée d'une petite rue latérale. Mais ils allaient sans doute être obligés de céder à la canaille qui tenait à s'emparer des torchères d'argent et des riches draperies lorsqu'une auto vint topper derrière les miliciens. Elle était escortée par une vingtaine de robustes matelots, et l'homme qui la conduisait était celui-là même auquel le docteur Cornelius avait fait, une demi-heure auparavant, de mystérieuses recommandations. C'était Fritz Kram. Il fit entendre au chef des miliciens qu'il avait mission de mettre en lieu sûr le cercueil du grand savant. On n'avait aucune raison de ne pas ajouter foi à ces allégations. Le cercueil fut donc chargé dans l'automobile, qui se perdit bientôt dans l'enchevêtrement des petites rues qui s'étendent entre le port et la gare du Central Pacific Railroad. Les miliciens battirent en retraite, et la foule en profita pour démolir entièrement le superbe char funèbre dont elle se partagea les débris. Pendant que cette scène avait eu lieu, l'ingénieur Pagano, le fiancé de Mademoiselle André de Maubreuil, le naturaliste Roger Avenel, le fiancé de Frédéric, avaient suivi le bossu Oscar Tournesol jusqu'au commissariat spécial de la gare. Là, ils demandèrent à être mis en présence de l'homme qui se faisait passer pour M. Bondonat. Le chien pistolet les avait suivis en continuant à aboyer énergiquement, comme s'il eût été exaspéré de l'erreur dont son maître était victime. L'officier de police se fit d'abord un peu tirer l'oreille, mais quand Roger Avenel, qu'il savait être un ami du milliardaire Fred Jorgel, eut déclaré qu'il se portait caution pour la somme que l'on exigerait, si considérable fut-elle, toutes les objections tombèrent. Et M. Bondonat fut amené dans le bureau où se trouvaient déjà le commissaire spécial et les trois jeunes gens. Le vieux savant était heureusement muni de pièces qui établissaient son identité et qui se trouvaient dans son portefeuille lorsqu'il avait été conduit à l'île des Pendus. De plus, sa ressemblance avec une photographie de M. Bondonat, dont l'ingénieur Pagano était porteur, formait un sérieux argument. Enfin, les aboiements et les caresses de pistolet ne permettaient guère de conserver de doute sur la personnalité réelle du vieillard. « Mais enfin !» demanda le commissaire spécial à qui cette aventure extraordinaire inspirait la plus grande méfiance. « Pourquoi, si vous êtes bien le véritable Bondonat, n'avez-vous pas prévenu votre fille dès votre arrivée? Vous auriez évité l'émeute qui en ce moment se déchaîne dans la ville et dont vous êtes responsable. » « Monsieur, cela m'a été absolument impossible. Il y a 2 heures à peine que le vapeur, le Pacifique, sur lequel je m'étais embarqué à l'île de Bazan, a jeté l'ancre dans le port. Et vous savez vous-même qu'il n'y a pas moyen de circuler dans la ville. Puis j'ignorais où se trouvait ma fille. J'ai fait vainement les plus grands efforts pour atteindre le Palace Hôtel, d'où je comptais téléphoner. » Le commissaire spécial réfléchit un instant. « J'éclaircirai tout cela, » murmura-t-il. « Alors, » demanda l'ingénieur Pagano, « Monsieur Bondonat va être remis en liberté ?»« Soit, mais à condition que vous répondiez de sa personne. » Je vous ferai connaître tantôt à quelle somme je fixe le chiffre de sa caution. « Monsieur, je vous en supplie !» balbutia le vieillard que cette succession d'émotions violentes avait complètement anéanti. « Je vous en conjure. Dites-moi si ma chère Frédérique est sauvée. » « Vous allez le savoir à l'instant même. Le poste de secours où elle a dû être transportée se trouve dans la gare. »« Je vais prendre de ses nouvelles !» s'écria impétueusement Roger Avenel. « J'y vais aussi !» ajouta M. Bondonat. « Non, cher maître, » dit l'ingénieur Pagano. « Restez ici. » Il est plus prudent de ne pas exposer Mademoiselle Frédéric à une seconde commotion. « Vous avez raison, » murmura le vieillard en tombant anéanti sur un siège. L'ingénieur n'avait pas dit le fond de sa pensée, et s'il avait retenu M. Bondonat, c'est qu'il se disait avec angoisse que peut-être la jeune fille avait succombé au choc terrible qu'elle avait ressenti en voyant se dresser devant elle le spectre de son père. Heureusement, ses craintes étaient exagérées. Quelques minutes plus tard, le naturaliste revint à la physionomie radieuse. « Rassurez-vous, mon cher maître, dit-il, notre cher Frédéric a enfin recouvré ses sens. Et cela, je dois le dire, grâce aux soins du docteur Cornelius qui a tout mis en œuvre pour venir à bout de la syncope. » Dès lors, il ne fut plus possible de retenir M. Bondonat. L'instant d'après, le père et la fille se jetaient en pleurant dans les bras l'un de l'autre. Quant au docteur Cornelius, il s'était modestement éclipsé, sans doute pour échapper aux remerciements. L'ingénieur Pagano, Roger Avenel, Miss Isidora, André, Fred Jorgel et le bossu Oscar Tournesol n'étaient guère moins émus que M. Bondonat et sa fille. Le commissaire central mit fin à cette scène attendrissante en priant le milliardaire et ses amis de monter dans une auto qu'il avait fait venir et qui, sous bonne escorte, les conduirait tous au Palace Hôtel. Chacun s'empressa d'obéir. Une demi-heure plus tard, tous les amis se trouvaient réunis dans un des salons du luxueux caravansérail qui passe pour être le plus vaste de toute l'Amérique. Là, le premier soin de M. Bondonat fut de téléphoner au police office, en promettant une forte prime pour qu'on retrouvât le cosaque Rapopov et la petite océanienne, qui s'étaient perdus dans la foule en cherchant à le suivre, et que, dans son émotion, il avait un instant complètement oublié. 2 policemen, d'ailleurs, les ramenèrent dans la soirée. M. Bondonat, qui, transporté de bonheur en se retrouvant au milieu des siens, avait oublié toute sa fatigue, fit le récit détaillé de ses étranges aventures. « J'adopterai la petite Hataoura, » déclara Frédéric. « Je veux que cette pauvre orpheline soit instruite et éduquée convenablement par mes soins. »« Mais pourquoi, mon père, n'avez-vous pas amené avec vous,
pour nous les faire connaître, le peintre Grivard et la charmante guérisseuse de perles. Je les ai priés tous les deux de m'accompagner, mais Lorenza a éprouvé de telles souffrances pendant sa captivité chez les bouddhistes que sa santé en a fortement été ébranlée. Elle a dû demeurer à bord, d'où elle prendra le premier train rapide en partance pour New York. Tous deux m'ont promis, d'ailleurs, que nous nous reverrions en France, et il est entendu qu'aussitôt notre retour, Lorenza et son mari viendront passer quelques semaines dans notre ville, la Bretonne. Quant au Cosaque, déclara le naturaliste, nous en ferons un garçon de laboratoire émérite, s'il parvient à se corriger de l'habitude de vider des flacons d'alcool et de se confectionner des tartines avec certains produits chimiques. Monsieur Bondona, après avoir terminé le récit de ses aventures, attendait avec impatience qu'on lui fît connaître la manière dont on avait découvert sa retraite et dont on s'était emparé de l'île des Pendus. Ce fut l'ingénieur Pagano qui se chargea de cette narration, en donnant les plus vifs éloges à l'ingéniosité et au courage de Lord Buridan. Il dit comment l'excentrique avait eu l'heureuse idée de prendre à son service tous les clowns du Grill Club, comment le nageur Bob Orwett avait détruit les torpilles, enfin, comment les bandits déjà terrifiés par les visions cinématographiques projetées du pont de l'Ariel avaient été vaincus et anéantis en bataille rangée. Mais, demanda M. Bondona, que sont devenus les bandits de la Main Rouge? Il y en avait parmi eux quelques-uns qui étaient assez braves gens. Le lendemain même de notre victoire, un croiseur de l'État que les démarches de M. Fred Jorgel avaient enfin décidé le gouvernement américain à envoyer à notre secours, est venu jeter l'ancre en face de l'île et a pris à son bord tous les bandits. Ils doivent être jugés ultérieurement. Quant aux Esquimaux, on ne s'est pas occupé d'eux. Et les Russes? Et le prophète Rominoff? Demanda encore M. Bondona. On a pris les mesures nécessaires pour qu'ils soient ramenés en Europe. En somme, reprit le vieillard, dans cette étrange aventure, tout s'est terminé mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Mais il y a trois personnages qui manquent à cette réunion. D'abord, l'ingénieur Harry Dorgan, dont j'aurais été enchanté de faire la connaissance.
« Vous le verrez d'ici peu, » répliqua Fred Jorgel. « Il est en ce moment à New York, où l'extension qu'a prise la compagnie des paquebots éclairs rend sa présence indispensable. »
Mais Lord Buridan et le fidèle Clum, le peau rouge, n'ont pas les mêmes excuses, dit en riant le vieux naturaliste, et il me semble que leur place était tout indiquée à mes obsèques. « Vous savez, répondit Roger Avenel, que Lord Buridan est l'homme le plus fantasque qui soit. Il n'en fait qu'à sa tête. Sitôt que nous avons été arrivés à San Francisco, il nous a quittés sans dire où il allait, en compagnie de Clum et d'un Français nommé Agénor Marmousier, qui est en même temps son ami et son secrétaire. Mais soyez tranquille, Lord Buridan est de ceux qui ne restent jamais longtemps sans qu'on entende parler d'eux. » Monsieur Bondona et ses amis ne se couchèrent qu'à une heure fort avancée, le soir de cette mémorable journée. Tous étaient brisés de fatigue, mais enchantés que les choses se fussent terminées de si heureuse façon. Le lendemain, le premier soin de M. Bondona fut de se rendre au police office, d'abord pour y déposer une caution comme il l'avait promis, puis pour savoir ce qu'était devenu le cadavre embaumé auquel les bandits de la Main Rouge avaient réussi à donner sa propre ressemblance. Il ne doutait pas que l'examen attentif de cette curieuse pièce anatomique n'amenât de singulières découvertes. Malheureusement, ainsi que lui apprit le directeur de la police de San Francisco, le cercueil où se trouvait le corps du prétendu Bondona avait disparu dans la bagarre. Les recherches les plus minutieuses ne donnèrent aucun résultat. On supposa qu'à la suite de l'émeute, le cercueil avait dû être jeté à la mer. Il fallut renoncer à savoir ce qu'il était devenu. Est-il besoin de le dire, les poursuites commencées contre M. Bondona ne furent pas continuées. La somme qu'il avait déposée en guise de caution lui fut rendue. Bientôt, les journaux annoncèrent que le vénérable savant, dont la santé était complètement rétablie, avait consenti à passer quelques semaines en Amérique, dans les propriétés de son ami, le milliardaire Fred Jorgel, avant de regagner définitivement la France. Les mêmes journaux annonçaient le triple mariage de M. Harry Dorgan et de Miss Isidora, de M. Roger Avenel et de Mlle Frédérique Bondona, et de M. Antoine Pagano et de Mlle Andrée de Maubreuil.